Ah, l'Himalaya, c'est un monde, c'est le monde des dieux, comme disent les hindous. Le monde des dieux, non seulement par la grandeur, par la magnificence de tous ces grands sommets, mais aussi par tout ce qui est resté attaché à l'Himalaya de pensées mystiques, qui ont été mises là par des sages qui, pendant des siècles, s'y sont succédés, y ont médité, y ont passé des existences presque inimaginables pour nous.
Si loin, si proche, le magazine des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary.
Tout compte fait, même si elle a vécu 100 ans, ça fait un quart de siècle, elle passe 25 ans en voyage.
C'est une femme vraiment éprise de liberté de façon absolue. On ne pouvait pas la soumettre. C'était une insoumise, quelque part.
Elle était excessive en tout. D'une intelligence, bon, c'est pas la peine de le dire, on le sait, quand on voit tous les livres qu'elle a écrits. Parce que l'exploration, oui, mais c'est pas simplement pour mettre un pied devant l'autre. C'était l'étude en même temps. J'en ai connu des gens. Mais j'ai jamais vu l'intelligence, la subtilité d'Alexandra.
Bonjour, c'est un prénom, Alexandra. Entrée dans les mémoires, un monument, une montagne à sa façon, peuplée d'esprit et de sagesse comme l'Himalaya qui l'impressionnait tant. Une femme libre, surtout comme il en existe peu, à la fois journaliste, cantatrice, voyageuse, écrivaine, photographe, orientaliste et bouddhiste convaincue. Un esprit aussi, anticonformiste, intègre et libertaire qui aura marqué son époque, mais aussi tous ceux qui l'ont lu ou côtoyé de près ou de loin. Petite précision, Alexandra Davinel, c'est son nom, est née en France il y a 150 ans, en 1868. Elle vivra jusqu'à près de 101 ans. Ses multiples voyages qui vont la mener en Asie, à travers l'Inde, la Chine, le Japon et le Tibet bien sûr, continuent encore, 100 ans après, d'inspirer et de fasciner les âmes vagabondes et aventureuses à travers le monde. « L'aventure est l'unique raison d'être de ma vie », écrivait la plus célèbre des exploratrices. C'est ce que nous allons voir cette semaine à la rencontre de cette dame lama nommée Alexandra.
Allez, on va vers Santenzong, la forteresse de la réflexion. Alors Zong, c'est le fort, hein, donc il faut bien sûr se remettre dans le contexte de 1928, hein, ça fait 90 ans. Hein. Il y avait le double de terrain, il y avait la route de Nice qui était bien sûr pas du tout bruyante. Autour, il n'y avait absolument rien, vous regardez des photos anciennes, il n'y a que la maison au milieu de la colline. Et c'est le terme de Zong, de fort, forteresse, vous voyez, c'est le fait de dominer. Et elle installe en haut d'ailleurs, dans les premières parties de ses agrandissements, ce qu'on appelle le Gelsen tout en haut, qui est un symbole de victoire, vous voyez. Parce que la partie d'origine, elle est là. On reconnaît tout de suite.
Hein, la maison la plus
avec
basse.
Les voilà, avec la pergola donc à gauche, les tuiles comme ça. Et ensuite, c'est plutôt style indo-anglais, tibétain, si vous voulez. Sachant que c'est elle l'architecte.
Et là, il y a les drapeaux, justement, qui répandent et dispersent les mantras. Avec ce vent, il y en a pas mal aujourd'hui. Hein.
Ce jour-là, comme souvent dans les Alpes de Haute-Provence, le mistral souffle sur les drapeaux à prières tibétains colorés qui flottent sagement près de la maison d'Alexandra. C'est ici, à Digne-les-Bains, entre Alpes et Provence donc, dans le sud de la France, que l'aventurière va poser en 1928 ses lourdes malles. Alexandra est désormais célèbre, connue dans le monde entier pour avoir été la première occidentale à entrer à Lhasa, cité sacrée des Tibétains. Aujourd'hui, cette curieuse demeure aux murs blancs et aux volets ocre rouge, surnommée en tibétain Samtenzong, comme vient de le dire Clément Domas, régisseur et guide sur place, abrite un émouvant musée retraçant la vie, les voyages et les engagements d'Alexandra. Une maison d'écrivain, comme placée hors du temps, qui lui ressemble. Nadine Gomez est conservateur du patrimoine à la tête de la maison Alexandra Davinel.
C'est la première maison qu'elle ait jamais achetée et la seule. Donc c'est une maison qui est importante. Elle a toujours rêvé d'avoir une maison et elle l'a achetée à Digne juste après son retour de ce qui l'a rendue célèbre, le voyage au Tibet. Donc elle est à Lhasa en début 1924. Elle rentre en 1925 et elle va trouver ce terrain de 1,5 hectare avec des arbres, avec des prairies, etc. C'est un cabanon de campagne, c'est-à-dire que les gens habitent en ville, même si ça paraît marrant parce qu'on est à 20 minutes à pied du centre-ville, mais c'est quand même complètement la campagne. Voilà. Et je crois que c'est ça qui la conquiert.
Et la proximité peut-être, en tout cas, d'un certain relief. Alors certes, c'est sans commune mesure avec les vastes contrées himalayennes, mais en tout cas, autour de nous, là, on les voit.
De toute façon, quand elle achète la maison, elle envoie des cartes postales où elle écrit « The view from my windows ». Donc en fait, c'est ça qui compte, c'est la vue. Et effectivement, la vue, on voit la grande rivière, la Bléone, qui est au pied de sa maison.
Là, juste là.
Oui, juste en bas, juste en contrebas. Et puis au fond, le massif des Trois Évêchés, qui est à 3000 mètres, qui est enneigé. Et en fait, il y a quand même cette image très forte de la montagne. Elle n'est pas dans la montagne, mais elle voit la montagne, elle voit la rivière, elle voit des arbres, elle est dans un environnement très naturel. Ce qu'elle visite ne lui convient pas, mais elle achète presque quelque chose qu'elle va pouvoir concevoir, construire, imaginer.
Donc aujourd'hui, avec cette physionomie assez étrange, pas proprement du tout tibétain, mais il y a une inspiration en tout cas.
Il y a les trois toits terrasses plats tout autour de la maison. Il y a la tour centrale qui est couronnée quand même par un emblème de victoire, un gyaltsen, des fenêtres en ogive qui sont années 30. Donc c'est bien sûr, c'est un mélange de l'extérieur, un mélange des genres, mais de l'intérieur, ce qui est très surprenant, c'est que ce sont que des petites pièces. Il n'y a pas de grandes pièces, en fait. Hein. Elle cherche des espaces qui lui rappellent une cabane. À l'étage, les sols sont en bois, par exemple. Sa chambre donne sur un toit terrasse. Et alors, il faut quand même rappeler, je le dis toujours, parce que quand elle achète cette maison et qu'elle va se lancer dans ses travaux qui vont lui prendre jusqu'en 1930-1931, quand elle achète, elle a 60 ans. Et ce qui l'intéresse le plus, c'est de dormir dehors sur sa terrasse.
J'ai le mal du pays pour un pays qui n'est pas le mien. Les steppes, les solitudes, les neiges éternelles et le grand ciel clair de là-haut me hantent. Pays qui semble appartenir à un autre monde, pays de titans ou de dieux, je reste ensorcelée. Extrait de la correspondance à son mari, 1917.
Partie en voyage pour quelques mois ou un an peut-être vers Ceylan, Alexandra Davinal va finalement quitter mari et foyer pour 14 ans. Drôle de relation que celle qui unit Alexandra et Philippe Nel, un ingénieur des chemins de fer, qu'elle rencontre à Tunis en 1900 et épouse sans conviction pour le mariage tout du moins. Ces deux âmes solitaires vont alors nouer une correspondance singulière qui défie le temps, les frontières, mais aussi les normes sociales, celles d'un couple au début du XXe siècle. D'autant plus qu'Alexandra n'aura jamais d'enfant, biologique en tout cas. Car au cours de son voyage en Asie, elle va faire la connaissance, au Sikkim, d'un jeune garçon de 15 ans, un serviteur qui très vite deviendra son compagnon d'études et de voyage, son fils adoptif, Afour Yongden. C'est avec lui qu'elle atteindra clandestinement Lhasa et posera pour la postérité au pied du palais du Potala. L'image en noir et blanc a marqué les esprits. Mais reprenons avec Nathalie Bazin, conservateur en charge des collections himalayennes au Musée Guimet, Musée national des arts asiatiques, le fil de ce premier grand voyage en Asie.
Elle arrive à Ceylan, ensuite elle aborde l'Inde par le sud du pays, et puis elle remonte vers le nord, à Calcutta. Elle va ensuite voyager au Sikkim, au Népal, et puis en Chine. Petit à petit, l'objectif qu'elle se fixe est de parvenir à Lhasa. Elle a eu l'occasion de rencontrer quelques Occidentaux, des hommes évidemment, qui étaient parvenus. Et elle se dit qu'elle aussi, elle va aller jusqu'à la ville de Lhasa, qui est donc la capitale du Tibet. Donc un lieu mythique qui pour elle va être le symbole de cette réussite. Et donc elle va tout mettre en œuvre de façon inlassable pour parvenir à cet objectif, qu'elle atteindra finalement, malgré tous les obstacles, et Dieu sait s'il y en avait, en février 1924.
Après trois tentatives.
Après plusieurs tentatives qui avaient échoué, par des chemins qui, pour préserver son anonymat, n'étaient pas les chemins habituels. Donc elle a fait aussi œuvre d'exploratrice, puisque là, elle emprunte des voies qui n'avaient pas été empruntées par d'autres occidentales.
Qui n'étaient pas cartographiées.
Avant elle, voilà, qui n'étaient pas toujours cartographiées. Voilà, mais elle s'est obstinée. Et comme justement, elle s'est fait passer, comme beaucoup le savent, pour une mendiante, enfin, voyageant avec son fils et en pèlerinage jusqu'à Lhasa. Alors, il faut dire une chose, oui, c'est que Alexandra était cantatrice tout de même entre 1888 et 1902, donc pendant 14 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que tout en étant cantatrice, elle étudiait le sanskrit, elle étudiait le tibétain. Et finalement, cette carrière de cantatrice, elle avait tout de même un premier prix de chant théâtral français qu'elle avait obtenu au Conservatoire de musique de Bruxelles, n'est pas inutile pendant ses voyages, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'elle a le sens de la mise en scène.
Il a fallu porter des masques.
Le sens de la représentation. Et ça, elle sait très bien en jouer pour parvenir à ses fins.
Ah, il y avait des villages. Ben dans les villages, on s'en allait mendier, puisqu'on était des mendiants. On s'en allait mendier, et puis on chantait des choses religieuses aux portes des villages. Et je fais ça très bien, du reste. Et mon fils aussi, lui, il est tibétain, naturellement. Et alors, on récoltait des aumônes. Oh, quelquefois, c'était pas très bon. Et d'autres fois, oh, c'était à peu près mangeable. Et puis, quand on n'en avait pas, et bien, ma foi, on jeûnait, ça arrive, ces choses-là. Et il nous est arrivé de rester 6 jours sans manger. Et il n'y avait plus rien. Nous étions dans les neiges absolument perdus. On a traversé les montagnes, alors enfouis dans la neige. Et il neigeait, et il neigeait, et il neigeait. Il a neigé comme ça pendant ces 6 jours. Enfin, le jour suivant, tout de même, nous avons rencontré des gens qui nous ont donné du thé. Il était temps, tout de même.
C'est un vrai voyage, c'est-à-dire elle part sans ticket de retour, en fait. Hein. Chaque fois que se présente quelque chose de nouveau, l'idée que ce ne soit pas préparé, que ce soit de manière impromptue, elle le dit elle-même, ça l'exalte. On prévoit de partir sur ce chemin, il y a un effondrement, on doit en prendre un autre, tant mieux, c'est l'aventure. Quand on lit les textes, on ne sent jamais ni la peur, ni la crainte de mourir. De temps en temps, elle évoque qu'elle est malade. Bon, mais en fait, finalement, autant elle était plutôt d'une santé relativement fragile au début de sa vie qu'après, quand elle est en situation de voyage, elle fait face à tout ce qui arrive. Mais physiquement, quand même, elle va faire un voyage de 14 ans. Et puis après, le deuxième voyage de 10 ans est encore plus incroyable. Quand elle part en 1937 pour la Chine, elle va arriver dans un contexte de guerre civile, elle va rester 10 ans là-bas, de 37 à 47, et en définitive, dans des conditions physiques.
Et elle a 70 ans quasiment.
Mais voilà, absolument effroyable. Elle est sans peur, c'est ça, c'est vraiment incroyable. Elle est absolument sans peur, sans crainte, elle se plaint jamais de rien. Donc en fait, quand elle part, elle ne sait pas si elle va revenir dans un an, elle revient 14 ans après. Son mari, Philippe Nel, lui non plus, il ne sait pas que sa femme va partir. Mais en tout cas, jamais il l'abandonne, jamais il la lâche. Il est toujours très présent. Et puis, de temps en temps, elle lui rend hommage. Elle lui dit qu'il lui a permis de réaliser son rêve. Donc, c'est quand même extraordinaire. Quand elle revient du Tibet, très rapidement, elle va demander à son mari, qui a reçu les bagages et les malles qu'elle a envoyés depuis l'Inde, de très rapidement lui restituer ses objets, tous les objets qu'elle avait envoyés. En fait, c'était très important dans cette maison d'être toujours entourée par ses objets asiatiques, ses collections. Comme elle ne voyageait plus, il fallait quand même qu'elle soit avec eux, en fait. Donc c'est très important, il y a un très grand attachement aux objets. Alexandra Vinel, elle avait un état d'esprit de collectionneur. C'est-à-dire, elle garde tout, tout, tout. Les chéquiers, les petits bouts de papier. Elle écrit tout le temps, tout le temps, tout le temps à son mari. Donc, elle lui décrit les gens qu'elle rencontre, mais même les idées qu'elle a. Et notamment, en 1925, il y a un repas où il y a le directeur du musée Guimet de l'époque, qui s'appelle Monsieur Atkin, qui demande à Alexandra Davinel de bien vouloir venir au musée Guimet pour installer la chambre d'un lama tibétain. Elle ne le fera pas pour le musée Guimet, elle va le faire chez elle.
Allez, vous pouvez venir par ici. Venez, vous pouvez rentrer. Alors nous sommes chez Alexandra Davinel, c'est très important. Vous avez remarqué des carreaux ciment d'époque, hein, 1930, au sol, oui. On est dans le vestibule d'entrée parce que la porte d'entrée de chez Alexandra Davinel, c'est là. D'accord ? Ça n'a pas bougé. Ça donne sur le petit escalier et le parking hein, que vous avez vu. Hein. Alexandra Vinel, elle habite à Digne. Ça ne vous a pas échappé. Donc, elle est loin de Paris, des grandes villes et de tous les gens qu'elle va... Quoi. Quand je vous parle de gens, ce sont des relations de travail. C'est-à-dire des éditeurs, des journalistes qui vont prendre rendez-vous. Ils vont se présenter à cette porte. Vous voyez ? Et elle... Elle a 30 ans de voyage derrière elle, mais elle n'a pas les diplômes universitaires. Donc, elle est obligée de mettre en avant ses 30 ans de voyage. Donc, quand la personne va se présenter ici, vous voyez qu'il y a un habile jeu de lumière avec les carreaux hein, qui sont de couleur. C'est une petite mise en scène. Là, encore une fois, je n'invente rien puisqu'elle le dit elle-même dans ses carnets. La personne pourra donc être là, lever la tête et regarder ces deux masques-là qui viennent du Tibet, hein, en particulier celui-ci qui est un masque d'ours, vous savez, un masque de danse. Et Madame Nel donc, va arriver de ce côté-là et va recevoir la personne en question dans sa pièce, alors qu'elle appelle pièce tibétaine. Il y a divers horizons. Je vous dis, vous avez de la Chine, vous avez de l'Inde, vous avez du Japon ici, voilà, du Tibet. Mais par contre, c'est une pièce exotique, ça c'est sûr. Si je ne vous dis pas qu'on est à Digne, c'est très compliqué de deviner qu'on est en France, là, quand on regarde ça. Eh bien, c'est l'effet recherché.
Je trouve Madame Alexandra Davinel dans une propriété campagnarde, non loin de Manosque. Et la pièce dans laquelle j'étais introduit tient à la fois de l'oratoire et du musée. Et j'aperçois des Bouddhas en posture de méditation qui mettent dans la pièce une indicible atmosphère de sérénité. J'aperçois aussi de grands masques aux physionomies démoniaques qui sont suspendus à la hauteur du plafond, d'où ils semblent prêts à se précipiter sur le visiteur qui s'est aventuré à leur portée.
Je vous laisse bien regarder, vous pouvez prendre une photo, vous prenez le temps et ensuite vous me suivez et puis nous on va aller vers là-bas.
Ça devait être impressionnant quand même d'être derrière la porte à attendre Madame Alexandra Davinel.
Tout à fait, oui. Ah, mais pour faire tout ce qu'elle a fait, je pense qu'il fallait qu'elle ait quand même une sacrée personnalité. Hein.
Un peu de caractère, oui.
Caractère et...
Donc ici, tout ce que vous voyez ici dans les vitrines, c'est authentique. Hein. Donc c'est bien les sacs de peau qu'elle avait ramenés. Tout en bas, c'est bien le bonnet de Lhasa, hein, qui est extrêmement connu. Hein, finalement.
Ah, le fameux bonnet en peau d'agneau, non?
Exactement, c'est ça qui tombe un peu en morceaux, parce qu'il était déjà très abîmé lorsqu'elle le trouve. Hein,
pour et le bonnet rouge aussi.
Oui, on la voit sur beaucoup de photos, avec celui-ci.
Ça, c'est ce que portent...
Les lamas, les moines, ouais, 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 bien sûr. Mais elle est considérée comme Kadoma, hein, une dame lama, hein, là-bas, extrêmement respectée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle reçoit les deux bagues initiatiques que vous
ça,
voyez là.
Ça, c'est suite à son ermitage,
ouais,
justement.
Ouais,
à...
Sa valeur de diplôme. Ça, on parlait de diplôme tout à l'heure. Sa valeur de diplôme. Bien sûr, le briquet. Elle en fait souvent allusion dans le voyage à Lhasa, hein, par exemple.
C'est le briquet cool. Tibétain.
C'est le briquet. On sort le silex, on frotte, ça fait une étincelle. Voilà.
Alors, il y a quelque chose aussi qui attire mon attention dans ces vitrines. C'est cette photo. C'est elle qui était petite.
Oui. Oui.
Elle est étonnante, cette photo, oui. Parce que... Là, elle regarde complètement ailleurs. Elle a l'air presque triste. C'est étonnant comme
ouais.
Image pour une
mais
enfant.
C'est assez révélateur. Moi, je ne suis pas psychologue, hein, mais elle a une enfance qui n'est pas du tout difficile, mais qui est assez austère. Ses parents sont très âgés, quand même. Elle est en pension.
Elle a quel âge, là, sur cette
photo ? Ben là, elle a 2-3 ans. On est en 1871, là, à peu près. C'est au moment où, dans ses lettres, elle parle que son père l'avait amenée devant le mur des fédérés, après la commune de Paris, où les communards avaient été donc fusillés, où elle a à peu près cet âge-là, pour son père lui montrer la barbarie un peu humaine, pour qu'elle soit déjà dans le bain, dans le monde dans lequel elle arrive. Mais vous avez raison, un petit air triste... qui va engager d'ailleurs des fugues à répétition hein, lorsqu'elle a 2-5 ans, surtout celle de 5 ans hein, dans le bois de Vincennes, où elle mord un gendarme, visiblement aussi, qui voulait la ramener. Vous voyez, elle était prédestinée quand même.
Et tout de suite, elle nous dit tant pis sur RFI.
Tu sais, moi j'aurais être neuve demain, dans le vent, être sève et veuve des chagrins. Souvent je rêve aussi d'ailleurs ou d'autres choses. Je rêve que
Les voyageurs, une superstition au Tibet. On dit que les voyageurs sont souvent suivis par des démons. Ces démons pénètrent dans les maisons où les voyageurs sont accueillis, et alors s'il y a des gens faibles, des gens malades, alors ces démons, dont la spécialité est de se nourrir des souffles, en fait du souffle vital des gens, ces démons font leur proie de ces êtres faibles ou de ces êtres malades. Si bien que souvent, s'il y a un malade dans une maison, on vous ferme la porte au nez et on vous dit « on n'entre pas » et on vous laissera dehors la proie des chiens quand il y en a. Maintenant, oh, ce n'est pas toujours comme ça. Moi, j'ai souvent été très bien accueillie dans les maisons et j'y ai demeuré avec les gens. J'ai pu les voir vivre de près. Mais j'avais déjà vu tout cela avant ce voyage-là. J'étais parfaitement au courant de la vie des Tibétains.
Si loin, si proche, le magazine des voyages.
Elle a su percer certains mystères du pays des neiges pour mieux les partager avec le monde. Alexandra David-Nel est toujours notre compagnon de route cette semaine. Entre Himalaya, Digne-les-Bains, dans le sud de la France où se trouve sa maison ouverte aux visiteurs, et le musée Guimet à Paris, on suit ses traces, profondes, presque indélébiles. Fille d'une mère catholique, rêveuse pour ne pas dire absente, et d'un père républicain anticlérical, ami du géographe anarchiste Élisée Reclus, Alexandra va très tôt se passionner pour les spiritualités orientales et l'ésotérisme très en vogue au XIXe siècle. Athée, anarchiste et féministe, elle entrera alors en bouddhisme comme on entre non pas en religion mais en philosophie.
L'originalité de Alexandra, c'est qu'elle est bouddhiste elle-même et engagée dans la pratique, ce qui va lui ouvrir des portes qui lui seraient restées fermées si, comme d'autres, elle n'avait été qu'une scientifique, une universitaire pure, je dirais. Et c'est parce qu'elle est engagée dans cette pratique et que c'est tout à fait exceptionnel qu'une femme blanche, française, occidentale, dans ces années-là, soit une pratiquante, que les portes vont s'ouvrir. Et c'est pour ça qu'elle, la seule, va pouvoir rencontrer par deux fois le 13e Dalai Lama que personne d'autre, aucun érudit occidental en tout cas, n'avait pu rencontrer avant elle. Et puis ensuite, en 1916 notamment, elle fait une incursion un petit peu secrète au sud du Tibet et elle va avoir l'occasion de rencontrer le Panchen Lama à son tour.
Et alors qui était ce personnage?
On va dire que c'est le deuxième personnage après le Dalai Lama. C'est un personnage qui est une sorte de maître spirituel pour le Dalai Lama et qui a des fonctions importantes auprès du Dalai Lama. Le Panchen Lama veut dire lama érudit. Voilà.
Et par qui va-t-elle être initiée? Parce qu'elle va vivre aussi 2 ans en ermitage.
Oui,
comment ça se passe?
Elle va vivre un peu plus de 2 ans dans un ermitage à très haute altitude au Sikkim. Et elle va rencontrer un lama qui va l'initier, effectivement. Et elle va rester auprès de lui. Lui-même habite dans un ermitage un petit peu plus haut, le lama Gomchen. C'est une étape, oui, cruciale aussi dans son existence.
Et qui va participer à la fois de manière personnelle et puis collective à une meilleure connaissance, justement, de ces enseignements-là, de ces secrets, puisqu'on parle aussi de ça.
Oui, oui, le bouddhisme tibétain est un bouddhisme, pour une partie, de nature. Il est bien sûr héritier des traditions bouddhiques antérieures. Mais il comporte une partie qui est ésotérique, c'est-à-dire secrète. Pourquoi? Parce que cette pratique engage très profondément et très intensément le corps et l'esprit. Les pratiques tantriques, donc du bouddhisme ésotérique, qui est un bouddhisme tantrique qui se base sur des textes qu'on appelle en sanskrit les tantras, ce sont des pratiques extrêmement actives et puissantes de transformation. si vous pratiquez pas correctement, vous pouvez en mourir, bien sûr. Lama est la traduction tibétaine du terme gourou en sanskrit. Les enseignements ne sont pas qu'écrits, ils sont toujours aussi oraux, parce que le maître est là pour vous guider. C'en est de ce domaine que, comme d'autres. Il faut vraiment pratiquer sous la direction d'un maître. Et donc, elle reste tout de même, ainsi qu'elle le disait, une des premières femmes bouddhistes de Paris, oui, c'est certain.
En ce temps-là, le musée Guimet était un temple. C'est ainsi qu'il se dresse, maintenant, au fond de ma mémoire. Au sommet de l'escalier, le saint des saints du lieu apparaît comme un antre sombre. À travers une lourde grille qui en défend l'accès, l'on entrevoit une rotonde dont les murs sont entièrement garnis de rayons chargés de livres. Dominant de haut la bibliothèque, un Bouddha géant trône solitaire, abandonné à ses méditations. À droite est une toute petite salle de lecture où les fervents de l'orientalisme s'absorbent en de studieuses recherches, oublieux de Paris dont les bruits heurtent en vain les murs du musée-temple, sans parvenir à troubler l'atmosphère de quiétude et de rêve qu'ils enclosent. Dans cette petite chambre, des appels muets s'échappent des pages que l'on feuillette. L'Inde, la Chine, le Japon, tous les points de ce monde qui commence au-delà de Suez sollicitent les lecteurs. Des vocations naissent, la mienne y est née. Tel était le musée Guimet quand j'avais 20 ans. L'Inde où j'ai vécu, Alexandra David-Nel, 1951.
Fin 1892-1893, la découverte du musée ne va faire que la conforter dans ce sentiment que pour elle, le chemin, ça va être le chemin du bouddhisme.
Mais comment est né chez Alexandra David-Nel ce désir d'Orient ? Comment s'est-elle tournée vers cette partie-là du monde, étant donné son histoire ?
Je crois que la philosophie bouddhique répondait très bien à ses attentes. Dans un de ses premiers articles sur le bouddhisme, en 1895, elle dit, alors je n'ai pas l'article sous les yeux, mais que la religion chrétienne est une religion de souffrance ou de soumission à la souffrance. Enfin, alors que dans le bouddhisme, la vie, effectivement, la vie, la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort sont des causes de souffrance, mais on peut tout à fait s'en libérer par une recherche personnelle, une recherche profonde, intérieure. Et ça, ça lui parle beaucoup. Elle a eu une enfance pas très heureuse, tout de même. Elle a, semble-t-il, bien quand même manqué d'affection, notamment de la part de sa mère. Donc, il y a une solitude, une tristesse, une souffrance qui s'installe dès l'enfance, une insatisfaction. Et en plus, bon, comme vous le savez, c'est une femme, elle va s'avérer très jeune, être quelqu'un d'une nature farouchement indépendante et prise de liberté. Et cette idée que par une recherche personnelle, on peut arriver à se libérer de cette souffrance qu'est la vie humaine et à laquelle elle est confrontée très jeune, ce que propose le bouddhisme lui parle très vite. Et donc, elle va abandonner le protestantisme pour se consacrer au bouddhisme.
À la maison Alexandra David-Nel, on ne se cantonne pas de raconter la vie trépidante et romanesque de l'exploratrice. On partage aussi, au gré de salles d'exposition adossées à la maison, la grandeur et la beauté des cultures bouddhiques. Ici, un mandala de sable miraculeusement conservé. Là, une scène de danse cham en masque et costume. Plus loin, des radongs, ces corps tibétains caractéristiques, ou ces manis, des moulins à prières qui, en tournant, dispersent les mantras qu'ils renferment. Les esprits, celui d'Alexandra en tête, habitent donc vraiment les lieux. Autre habitante, en chair et en os cette fois, c'est Marie-Madeleine Perronnet, 88 ans, qui vit ici depuis près de 60 ans. Elle a été la secrétaire particulière d'Alexandra pendant les 10 dernières années de sa vie, de 1959 à 1969. C'est elle qui ensuite a préservé la maison, l'a longtemps fait visiter, racontant souvenirs et anecdotes. Et nous, on n'a pas résisté à la tentation de frapper à sa porte.
Marie-Madeleine, c'est nous.
Bonjour madame.
On s'installe.
On vient bavarder avec moi?
Ah bah oui, on aimerait bien.
Oh là, Mignon est encore là.
Non, pas Mignon, on est encore là.
Je suis le bonheur des journalistes.
Vous savez combien de journalistes vous avez rencontrés ou de personnes qui sont venues vous voir pour parler avec vous, d'Alexandra ou de votre vie, vos 10 ans à ses côtés?
Je ne peux pas vous dire, c'est des dizaines de milliers. Au fait, vous connaissez Alexandra, vous avez lu des livres? Vous avez lu la correspondance à son mari?
Qui est très émouvante.
Madame, on ne peut rien faire si on n'a pas lu ça.
Mais c'est vous d'ailleurs qui l'avez publié.
Oui,
c'est grâce à vous.
3 ans j'ai travaillé là-dessus.
Mais qu'est-ce qui vous a passionné justement dans cette femme que vous avez rencontrée? Vous avez passé 10 ans à ses côtés.
Oui.
50 ans encore après.
Oui, je suis toujours là.
Oui.
Eh bien écoutez, c'est des circonstances qui se sont passées comme ça. Voilà, moi ce que je voulais c'était rencontrer l'intelligence. Mettre mes forces au service d'une intelligence. Homme ou femme, moi je dis que l'intelligence, ça n'a pas de sexe. Je refusais le mariage et la maternité. J'adore les enfants, j'ai une passion pour les enfants. C'est pour ça que je n'en ai pas fait. Parce que pour les mettre dans ce monde pourri et dégueulasse, non. Alors j'ai été nounou dans les familles. Je voyageais en élevant un enfant. Et je suis venue à Aix-en-Provence aider ma sœur qui avait acheté un petit immeuble là pour faire un hôtel.
Et alors, Aix-en-Provence, comment est-ce que vous avez rencontré Alexandra?
Eh bien voilà, je vous ai expliqué tout ça parce que c'est là que j'ai rencontré Alexandra. Parce qu'elle vient un matin, des gens devaient partir, je porte le plateau à ces gens, à cette dame. Elle s'appelait Aileen Pitté, une femme absolument charmante. Et en posant le plateau, je vois sur la table de nuit les enseignements secrets des bouddhistes tibétains, la connaissance transcendante. Je descends, je dis à ma soeur, je dis, tu sais, nous avons une intellectuelle dans la maison. Cette femme était très bavarde, moi aussi, ça tombait bien. Et à force de se promener avec elle, un jour elle me dit « Qu'est-ce que vous feriez bien, vous, avec mon ami ?» Moi je dis « Madame, qui est votre ami ?» Moi je... Elle pontifie un peu, elle me dit « Alexandra David-Nel. » Moi je dis « Qui c'est ça ?» Elle me dit « Comment ? Vous êtes française et vous n'êtes pas que la plus grande exploratrice du XXe siècle, c'est Alexandra David-Nel. » Je dis « Madame, excusez-moi, moi vous savez... Je ne connais pas tout ça. Parlez-moi des œuvres, des bonnes œuvres, je connais. Mais je ne connais pas David-Nel. À 2h de l'après-midi, elle dit, venez, je vais vous présenter à elle. Alors, j'arrive à l'hôtel Sexus. Elle me dit, asseyez-vous, mademoiselle. Ah, merci, madame. Comment vous appelez-vous? Quelle est votre religion? Que faisait votre père? Que faisait votre mère? Elle m'a fait une interview, elle avait l'habitude, en règle.
Un interrogatoire.
Carrément. Et quand elle a su ce qu'elle voulait savoir de moi et de ma famille, elle m'a dit « Au revoir, mademoiselle. Ah, »« Au revoir, madame. » Et je m'en vais. Mais comme vous voyez cette femme, elle avait une chevelure magnifique et un regard. Vous saviez que vous étiez devant l'intelligence. Bon, ben je m'en vais. À peine arrivé à l'hôtel chez ma soeur, qui était à 5 minutes de l'autre hôtel, on me dit « Mais madame Nel vous fait demander de toute urgence. » Mais je dis « Mais je sors de chez elle. » Enfin, je remonte. Et c'est là qu'elle me dit, mon enfant, ne me quittez pas. Je vais mourir dans 2 heures. Ne me quittez pas. Et bien, pendant 10 ans, elle a été à 2 heures de la mort. Ça a duré 10 ans.
Et alors, quand vous êtes arrivé la première fois ici, dans cette forteresse de la réflexion, c'était comment?
Ah, madame, j'étais catastrophée. Si j'avais visité la maison avant de venir, je ne venais pas chez elle. C'était un taudis. Des mâles, des caisses qu'il fallait enjamber, des cafards, des souris partout. Et que Bouddha me pardonne, mais j'ai acheté des tapettes. Un matin, j'en ai tué 45.
De souris.
45 souris. Mais là, si vous avez vu, ça sentait le tibétain. Le beurre de yak. Il n'y avait pas de beurre de yak, mais le beurre rance. Mais c'était l'horreur.
Et alors, quand vous êtes arrivé, donc vous avez vu ce...
Ah, j'ai pleuré pendant 3 jours. 3 jours et 3 nuits, je ne pleurais pas. Ça coulait tout seul. Je suis resté pour elle. Elle, je ne voyais plus qu'elle. Heureusement qu'elle, elle était là. Toutes les deux, elle surtout, on a fait un travail considérable. Elle a, mais cette volonté d'écrire jusqu'à 101 ans, on n'arrivait plus à déchiffrer. C'était tout barbouillé, les phrases les unes sur les autres. Mais elle travaillait. Une volonté à toute épreuve.
Et vous, vous tapiez à la machine?
Oui, j'ai appris toute seule, janvier, février, mars, avril. Moi qui avais dit « je ne taperai jamais », j'ai tapé pendant 60 ans.
Vous racontiez qu'elle écrivait en plusieurs langues, que sa pensée lui venait, c'est ça?
Ah, le premier mot qui lui venait, en anglais, en sanskrit ou en français, elle l'écrivait. Écoutez, le français, l'anglais et le tibétain, elle ne savait pas en quoi elle avait lu l'article. Elle me dit, tu vois, c'est embêtant, je viens de lire un article très intéressant qui serait bien pour ceci ou cela, mais il faut que je traduise. Mais madame, vous l'avez lu traduit? Ah oui? Ah bon? Elle pensait en plusieurs langues. Je peux vous dire qu'elle avait beaucoup d'humour. Il fallait quand même bien qu'elle ait des qualités pour que je la supporte. Parce qu'autrement, il n'y avait pas d'heure pour manger, pas d'heure pour travailler, pas d'heure pour dormir. Ça ne facilitait pas les choses. Quand à 2h du 3h du matin, je dis, madame, on est fatigué, on a sommeil, maintenant on va se coucher. Elle me dit, ah, mais tu n'es pas fatigué puisque tu parles. Il fallait travailler. On n'avait pas le droit de se coucher sans avoir fait un peu de travail constructif.
C'est ce qu'on perçoit ici dans cette maison. Elle vivait pour travailler, pour étudier, pour lire et pour écrire.
Oui.
Donc vous, vous étiez dans cette vie d'ascète.
Et moi qui ne connaissais rien de tout ça. Il a fallu que je parce que j'étais venue pour rien faire. Et puis j'ai tout fait. La sonnette et le coup de canne par terre en même temps.
Voilà, donc elle vous appelait.
À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Des fois à 3h du matin, elle dit, j'arrive pas à dormir, va me faire un café bien fort. Je descendais lui faire un café et elle dormait avec un café fort. Mais rien. Non, mais elle était très gaie aussi. Viens ma tortue, tiens-moi. J'ai tous les droits sur toi. Je peux même te couper la tête et m'en servir comme presse-papier, elle me disait. Tu es moi, tu es à moi. Jure-moi sur la Bible que tu ne m'abandonneras pas. Elle, si j'étais partie, je crois qu'elle se serait laissée mourir. Mais je ne pouvais pas laisser une femme de cet âge-là. J'avais commencé, dans ma famille, on était élevé comme ça. Aller jusqu'au bout.
Et alors, vous avez participé à diffuser son œuvre après sa mort.
J'ai tout fait rééditer. Parce qu'Alexandra, si vous voulez, ce n'est pas un écrivain. C'est un explorateur qui écrit bien. Maintenant, tout change, mais ça restera toujours une œuvre de référence. Quand vous voudrez étudier le Tibet tel qu'il a été pendant des millénaires, c'est Alexandra. Avec une grande honnêteté, une très grande intégrité.
Comment vous définiriez justement ces 10 années à ses côtés ?
Eh bien voilà, je vous explique. Je suis une femme excessive. Et ma vie a été aussi excessive que moi. J'ai eu des grands moments extraordinaires. Vous savez, quand j'ai fait l'immersion des cendres en Inde, dans le Gange, j'étais heureuse. J'étais heureuse parce que j'avais été jusqu'au bout de ce qu'elle voulait.
De son souhait.
J'avais tout exécuté. C'était un grand moment. Quand j'ai été reçue plusieurs fois dans l'Himalaya, au gouvernement du Sikkim, comme si j'étais Alexandra David-Nel. Tout juste si on ne me déroulait pas le tapis rouge. J'ai eu des grands moments. Finalement, une fois, elle m'a dit, tu es malheureuse avec moi, je le sais, mais tu le seras bien plus sans moi.
Et c'est vrai ?
Oh, c'est combien c'est vrai, madame. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Tous les jours, je le ressens. Plus je vieillis, plus je regrette Alexandra.
Là, il est quelle heure sur l'horloge ?
Il y a mon coucou. Attendez, j'ai l'heure là. 5h20.
Ben, il n'est pas minuit, hein. Vous nous aviez dit jusqu'à minuit.
Ah, j'ai dit jusqu'à minuit. Alors on continue.
Vous écoutez Si loin, si proche sur RFI.
Allez-y, je vous en prie.
Nous allons monter donc dans son bureau et sa chambre, puisque on va parler de configuration. Alors là, on va pouvoir rentrer, on va être très prudent, hein, je vous disais.
Ce sont des toutes petites pièces.
Hein. Succession de petites pièces. Mais à la fin de sa vie, elle a tout là, puisque vous avez également derrière vous, là, dans cette bibliothèque profonde, c'est là où il y avait une grande partie de ses 500 livres, comme ça.
Alors elle dormait là, c'est ça ? Dans le fauteuil ?
Sur le fauteuil, oui.
Elle dormait pas sur la petite banquette à côté ?
On savait pas poser ses livres. Il y a un petit mot de tortue, vous avez vu là ?
Non. Alors de sa secrétaire ?
Je suppose. Je suis partie, le café est sur votre table.
Signé tortue. Et à côté, ce sont ses livres ?
Les livres qu'elle avait, oui. Ses livres de chevet.
Alors Proudhon, Hegel, Histoire de la philosophie islamique, Gengis Khan. Elle devait passer sa vie à écrire, mais aussi à lire.
Oui. Sans lunettes. En plus.
Et vous l'avez lu ?
Voilà, comme je vous disais.
J'ai lu sa biographie, mais je n'ai pas lu ses ouvrages, non ? Ah, oui.
Et alors, petite question, là, il y a des...
Ce sont des sonnettes.
Oui, ce sont des sonnettes,
c'est pour appeler dans les pièces voisines, au rez-de-chaussée et tout, pour trouver Marie-Madeleine quand elle a besoin d'elle. N'oubliez pas qu'on est sur les 10 dernières années. Une Alexandra Davinel très âgée, bien sûr, avec beaucoup de rhumatisme, qui ne se déplace pratiquement plus.
En même temps, ici, on a l'impression qu'elle va, elle va arriver juste là, par la chambre.
Ouais, ouais.
On a vraiment un sentiment de, d'intimité, puis vous n'avez rien touché. C'est-à-dire que le plafond, tout est encore dans son jus.
C'est dans son jus.
Écaillé, avec la peinture bien jaunie. Exactement.
C'est resté dans son jus. Elle vivait finalement de manière très simple. Mais à côté de tout ce qu'elle a traversé, c'est du grand luxe, finalement. Quand on a le chauffage, quand on peut se l'électricité.
Elle a un petit cabinet de toilette avec juste un lavabo.
Ouais, c'était sommaire. Hein.
Le luxe est relatif.
En même temps, c'est émouvant de voir ça, parce qu'on se dit que jusqu'à 100 ans, jusqu'à dormir sur ce fauteuil, c'est quand même une vie particulière.
Avec le carcan de la société qu'il devait avoir à l'époque, c'est saisissant de penser qu'elle a pu chercher autre chose que ce qui était offert par la société.
À une femme surtout.
À une femme, oui. Ah, ouais. Qu'elle ait eu l'idée non seulement de l'étudier, mais de partir voir sur place, de l'expérimenter par elle-même, ça nous semble inimaginable maintenant. Quoi, ouais.
L'instant photo.
Sa chambre est... c'est joli. Il
voulait dire avec ses roses comme ça, ce papier peint, ses murs verts. Tous ses livres surtout.
Tous les livres, le bois. C'est un bric-à-brac qui va bien ensemble. On a plutôt envie de se poser aussi, de lire un livre dans sa petite chaise. C'est assez joli.
Et alors vous, comment est-ce que vous connaissez par les livres ce personnage d'Alexandra Davinel ?
Moi, je suis née à Digne. Je suis une dinoise. Je suis allée au lycée Alexandra Davinel. Après, je suis partie de Digne, mais à l'époque, je savais qui c'était, mais j'avais jamais vraiment pris le temps d'aller au musée ou de lire les livres. Et un jour, j'ai lu Voyage d'une Parisienne à Lhasa. J'ai beaucoup aimé le côté montagne, venant de Digne aussi, moi j'aime bien la montagne. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur elle. J'ai aussi lu la BD. Vu qu'elle a aussi passé pas mal de temps à Digne, c'est aussi un moyen pour moi de
vous en rapprocher aussi.
Oui, ouais, exactement.
Et qu'est-ce qu'elle vous inspire à vous qui. Vous avez quel âge? Vous êtes jeune?
31. Je la trouve vraiment très courageuse. Enfin, je comprends pas. Je comprends qu'on a envie de découvrir des choses, mais je comprends pas comment on peut avoir tellement envie au point de se retrouver dans des situations dans le froid, dans l'altitude, quand elle buvait que du thé, mangeait à peine, dormait dans des ravins. Enfin, j'ai du mal à envisager qu'on soit passionné à ce point-là jusqu'à faire un sacrifice physique aussi dangereux. Donc, assez inspirante et déterminée, enfin, avec vraiment une volonté incroyable, quoi. Elle est fascinante, je trouve. Quand j'ai lu son récit de voyage, ça m'a plutôt donné envie de voyager un peu différemment. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voyage, c'est assez balisé, c'est quand même beaucoup plus difficile de sortir des sentiers battus. Quand on fait des randonnées, c'est encadré. Enfin, ouais, ça donne assez envie de partir à l'aventure, finalement. Pas nécessairement de découvrir tel endroit plutôt qu'un autre, mais plutôt le style de voyage que j'ai trouvé fascinant, quoi.
Alexandra Davinel, elle est toujours d'une très très grande modernité. Mais c'est pas simplement parce qu'elle a fait le voyage au Tibet. Je crois qu'elle est toujours intéressante parce qu'elle est sur plein de niveaux différents. Ça a été une des premières féministes. C'était une féministe très active. Et c'était aussi une anarchiste, c'est-à-dire qu'elle a écrit, ses premiers écrits sont des écrits extrêmement virulents, en fait. Donc, bien entendu, les jeunes se retrouvent là-dedans, hein, sur le féminisme. Elle a écrit des livres vraiment au début du XXe siècle, qui sont des livres qui sont toujours d'une très grande actualité. Et finalement, on se rend bien compte que les idées très sociales, très libertaires qu'elle avait quand elle est très jeune, ce sont les mêmes qui sont dans le bouddhisme. D'ailleurs, dès 1895, c'est dans un journal qui s'appelle L'Étoile socialiste, où écrivent des gens comme Louise Michel, qu'elle va publier ses premiers textes sur le bouddhisme. Tout ça est d'une très très grande cohérence. Et c'est ça qui est admirable, en fait. Elle ne renie jamais ce qu'elle a fait auparavant, mais elle arrive toujours à le transformer, en fait. Elle n'est pas la première occidentale à aller à Lhasa. C'est la première femme. Donc quand elle va écrire, elle va commencer à raconter ses récits de voyage, ce qui l'a rendue célèbre, parce que finalement, c'est l'écriture la plus alerte, la plus convaincante, en fait, pour un lecteur classique. Mais après, elle va écrire des ouvrages en 1951 qui sont beaucoup plus ardus, hein, les enseignements des secrets tibétains avec les 18 voies du vide. C'est vraiment de la philosophie. Donc elle est sur plusieurs niveaux. Aussi, ce que je trouve très très intéressant, c'est que elle a tracé sa propre voie, en fait. Donc je sais pas si on peut dire qu'Alexandra Davinel c'était une avant-garde, c'était une pionnière, certainement. Il y a cet appétit, après, dans les années 70, de la contre-culture américaine pour le voyage en Inde, le voyage en Katmandou, et toute l'appétence qu'il y a à se retrouver dans la philosophie bouddhique, alors soit tibétaine, soit zen, une filière de recherche possible, c'est l'influence qu'elle a eue sur les écrivains américains de la Beat Generation. Des gens comme Allen Ginsberg, il ne faut pas oublier que Kerouac est devenu bouddhiste, etc. Donc je ne dis pas que c'est l'influence d'Alexandra Davinel, mais tous ont lu Alexandra Davinel.
Car pour bien comprendre Alexandra et son destin hors du commun, il faut évidemment la lire. La grande dame a publié de son vivant près d'une trentaine d'ouvrages, sans parler de ses innombrables articles et autres livres publiés par Marie-Madeleine après sa mort. Restent aussi les fameuses photos d'Alexandra, parmi les tribus Orpa ou en ermitage à 4000 mètres d'altitude. Le témoignage qu'elle laisse est donc colossal, et les enfants d'Alexandra sont encore aujourd'hui très nombreux. En plus de la maison qui se visite sur rendez-vous, n'hésitez pas à vous lancer, à Digne, à l'assaut des sommets entre randonnée et méditation sur les sentiers artistiques Land Art des Alpes de Haute-Provence. Visitez aussi, enfin, pourquoi pas, le musée Gassendi qui, pour le 150e anniversaire de la naissance d'Alexandra, consacre une exposition aux artistes contemporains inspirés par cette héroïne du XXe siècle. Parce que le plus grand explorateur du XXe siècle est une femme. Merci aux Alpes de Haute-Provence, à la maison Alexandra Davinel, le musée Gassendi et au Cairn Centre d'Art pour leur accueil. Merci à Lucie Bouteloup pour ses lectures. Les extraits de témoignages d'Alexandra sont des archives de Radio Genève datant de 1957 et l'extrait de Michel Manol est une archivina de 1954. Céline Develay-Mazurel, Laura Larry, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, faites de beaux et de grands voyages sur RFI.